tout va pour le mieux. Vous pensez n'avoir absolument rien à vous reprocher.
Pourtant, quelque part, on s'intéresse de très, très près à vous. Oui, vous, vous seriez peut-être bien affiché.
Et là, les interrogations fusent. Par qui? Pourquoi?
Êtes-vous vraiment espionné? Manipulé?
Qui oserait une pareille machination? Que fait le gouvernement? Mais que fait la police?
Et si justement on parlait de la BNG? Ça vous dit quelque chose?
Non.
Non.
En tout cas, les personnes interviewées au hasard de la rue n'en avaient qu'une vague idée. Des passants aussi concernés qu'inquiétés.
Ça me dérange pas. Je sais que ça peut heurter certains esprits un peu... libertaire à la limite.
Mais ça peut être positif dans certains cas, ouais.
Ça me dérange pas, c'est leur métier.
Enfin, pourquoi les gens sont pas au courant de ce truc?
Dans les journaux, on a beaucoup entendu sur les projets de vie en France. Ici en Belgique, c'est passé comme une lettre à la poste peut-être, car c'est venu au mauvais moment, au moment des négociations communautaires et au moment de la crise financière.
Mais pourquoi ils ont pas parlé avant?
Petite rétrospective.
Octobre 1996, la marche blanche. Des centaines de milliers de personnes inondent les rues de la capitale. L'affaire du trou y gronde sous de vives, mais pacifiques protestations. L'enjeu de cette revendication collective, plus jamais ça. La faute à qui? Au détraqué de Jumet, le vicieux des sous-sols. Pas seulement. Toute la justice belge se révèle défectueuse.
Même si un aspect du problème n'a pas autant marqué les esprits, l'information policière circule mal. Une réalité qui n'est pas sans conséquences. Il n'est plus tolérable que les renseignements circulent en fonction des liens d'estime ou de mépris entre officiers de police et gendarmes. Pour une meilleure coordination, la communication doit être objectivée. Cette marche blanche, cette mobilisation massive impose la marche à suivre, réformer les polices. Gendarmerie et police locale fusionnent ainsi pour donner la police fédérale. Lors de cette réforme, mais sans grand bruit, la BNG était créée.
Si on fait un rapide calcul, ça fait donc plus de 10 ans que ce système existe. La BNG, une siglaison impénétrable, trois lettres énigmatiques. La BNG, la Banque de données nationale générale. Une grande boîte où se trouveraient toutes les informations nécessaires aux policiers.
Un pot pourri de données sur des lieux, des véhicules et surtout des personnes. Un sujet important mais surtout méconnu qui peut vite prendre des allures de tabou.
Question sensible ou pas? Des agents patrouillant dans un quartier d'Ixelles nous font tantôt part de leurs lacunes, tantôt de l'angoisse suscitée par le sujet.
Excusez-moi, monsieur l'agent, on peut vous poser une petite question?
En principe, on ne peut pas.
C'est vrai?
Ça dépend de c'est quoi.
Est-ce que vous savez nous parler de la BNG, au fait?
Vous enregistrez,
non? Là, pour l'instant, non.
Mais comment vous dites?
La BNG, la Banque Nationale de Données.
Banque de Données
Nationale, des fichiers, ouais, de fichiers, ouais.
Ça existe,
ouais, ça existe, ouais.
Maintenez-vous au courant. Je veux dire qu'on a le plus bas niveau de la police.
Apparemment, on sera le dernier informé.
Un autre avis, toujours en micro caché.
Qu'est-ce que vous savez nous dire sur la BNG?
La BNG, moi, je ne vais pas répondre à des questions comme ça en uniforme, tout ça. Mais pas des choses aussi si sensibles.
Pas en uniforme? D'accord. Mais alors pourquoi sont-ils aussi taiseux? Il n'y a pourtant rien de top secret. Pour preuve, on retrouve sans grande difficulté au moniteur belge les mentions de cette fameuse banque de données. Ainsi, son origine remonte à l'article 44 de la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée. Jusque-là, pas de problème.
Mais cet article doit entrer en vigueur le 1er janvier 2001, soit 3 ans de fonctionnement sans cadre légal. Ou presque. Dans l'attente de textes définitifs, les ministères n'ont évidemment pas laissé cette jeune BNG sans surveillance. Elle faisait ses premiers pas, d'ores et déjà accessible aux forces de police, sous le regard de quelques circulaires ministérielles.
Octobre 2008, le fichier Edwige secoue le gouvernement français. Chez nous, cette polémique éveille alors quelques soupçons.
Et si Edwige avait une sœur belge? Leur royaume aurait-il une autre enfant cachée? Un journaliste du soir, Hugues Dorzé, a tenté d'en savoir plus.
C'est bien les journalistes, hein, toujours à fouiller la petite bête. Allez, vos papiers.
Son article a remis au goût du jour l'existence de cette BNG et le tout récent arrêté royal du ministre de la Justice, Joe Van Der Zun, et du ministre de l'Intérieur, Patrick De Waal. Le précédent projet d'arrêté royal d'exécution avait été avorté en 2006.
Pourtant, à cette même date, la BNG renferme déjà un volume astronomique d'informations, Près de 2 millions de personnes, 2 millions de véhicules, 15 000 lieux, 12 000 organisations, une masse vertigineuse d'adresses, de condamnations ou encore d'empreintes digitales. En tout, plus de 10 millions de faits concrets pour seulement 40 000 policiers.
Cet article du Soir a suscité de terribles craintes au sein de la Ligue des droits de l'homme et d'autres associations telles que le MRAX. Pour eux, une société autoritaire pointe à l'horizon.
Conscience collective ultra sensible oblige, on redoute déjà un fichage à l'étoile jaune, un régime policier, un état surveillance.
Motivées par ces inquiétudes, elles ont donc interpellé les ministres en question et autres parlementaires. Ce qui a permis d'envoyer ce dossier sur le bureau de la CPVP, la Commission de protection de la vie privée. La CPVP est chargée d'analyser ce projet d'arrêté royal qui est tout sauf viable pour l'instant. Le nouveau texte est en effet parsemé d'imprécisions quant à la nature et au traitement de certaines données. Nous avons rencontré Stéphane Verskuur, vice-président de la CPVP. Il relativise sur le sujet, c'est avant tout un climat de désinformation.
Pour l'instant, médiatiquement, l'enjeu n'est pas ressorti. On ne sait pas très bien de quoi on parle. Ça concerne tout le monde, ce truc. Il faut que tout le monde soit au courant, puisse se déterminer. La commission de la vie privée, c'est bien. Enfin, c'est une paramagistrature, on prend des décisions, avec un marteau, paf, dispositif, on a décidé, c'est bien. Et après, on a parlé de quoi? De vous? C'est votre vie privée, c'est votre sécurité, c'est votre petite fille qui vit dans les caves et vous voulez que l'information circule mieux, ou c'est votre gosse qui est tué à la gare centrale. Et vous êtes content qu'il y ait une caméra, ben, à l'autre moment, vous n'êtes pas content d'être dans le fichier pour d'autres raisons.
Pas la peine de crier à l'atteinte à la vie privée. En tant qu'organe de contrôle, la CPVP veillerait au grain. Un vrai défi que de faire respecter des règles qui n'existent pas.
Nous sommes l'autorité de contrôle. On a le pouvoir de faire effacer des données quand elles sont stockées illégalement ou abusivement. Mais quand il n'y a pas de normes de référence, c'est difficile. Ça veut dire que pour chaque cas, on est obligé de négocier avec l'autorité de police. On a mis des règles en place. On a quand même une préférence pour qu'il y ait une norme soumise au débat public. Et ce n'est pas les flics qui vont insister pour qu'il y en ait un. Eux, ça va. Ils font leur boulot, ils ont leur banque de données, ça circule, ça marche. Bon, ils préfèrent même qu'il n'y ait pas l'arrêté royal. Ça va mettre des règles en plus, ça les emmerde.
Le projet d'arrêté royal est bel et bien sur la table des ministres. Un projet aux allures positives, à la condition expresse que les ministères tiennent compte de certaines remarques.
C'est favorable sur le principe, sur l'existence de la norme, mais il faut poursuivre les questions qu'on soulève à propos des règles d'effacement, jusqu'où va remonter l'effacement. Même chose en matière de transfert international. On les a transmises chez le voisin, et le voisin, qu'est-ce qu'il fait? Parce que bien, il y aura des règles ici, mais une fois qu'elles sont ailleurs, dans ce cadre-là, il n'y a pas de régulateur. Et alors, la circulation des données à l'intérieur du fichier, ça aussi, ça peut être problématique. Parce que c'est un fichier commun à la police judiciaire et à la police administrative. Que quelqu'un qui fait de la police administrative peut voir tout ce qu'en vérité elle ne peut pas recueillir, alors il y a manifestement un dérapage. C'est-à-dire qu'on contourne complètement toutes les protections que la loi met au traitement policier et judiciaire de certaines données. Et là, il y a encore des questions aussi qui restent problématiques et très problématiques sur le temps de conservation. Quel est donc l'intérêt de maintenir une information judiciaire qui n'a pas été exploitée devant un tribunal plus que ce temps-là? Peut-être le temps que l'information demeure dans votre casier, parce que vous êtes toujours susceptible d'être poursuivi pour récidive, etc. Okay. Et donc, quand on dit que la limite, c'est 30 ans à partir du dernier traitement, mais c'est quoi un traitement? Donc ça, c'est très flou. Ça veut dire qu'on peut, avec des règles aussi vagues, tenir les données à un temps quasiment indéfini. Un délai de conservation, pour nous, ne suffit pas à justifier le maintien.
L'effort ministériel est louable, mais perfectible. Restent les questions qui heurtent les sensibilités, l'appartenance politique et l'orientation sexuelle. Les stéréotypes et autres exagérations ont fait leur temps. Fini les caricatures. Un gauchiste militant arborant un grand nœud papillon n'est pas forcément un délinquant sexuel.
Donc c'est un vrai débat, mais si c'est une caricature, ça devient un faux débat. C'est les données sur ce qu'on a appelé l'orientation sexuelle ou l'appartenance politique. C'est délicat, mais il faut comprendre que ça peut représenter parfois un intérêt concret pour une enquête. Et donc que ces informations-là soient concentrées dans un fichier autonome et très cloisonné, ça c'est essentiel. C'est le cas aujourd'hui, mais on aimerait que ce soit consacré quand même dans une norme. Tant qu'il n'y a pas une sanction judiciaire et objective, le fait que ça transpire, ça ce serait vraiment, vraiment très dangereux. On va commencer parce qu'on vous suspecte à fouiller votre vie dans tous les sens.
Le projet n'est pas vierge de tout dérapage, mais il ne sonne pas encore le glas des libertés individuelles.
Il ne faut pas terroriser l'opinion, parce que quand on fait peur aux gens, on les rend impuissants. Et il ne faut pas non plus terroriser les interlocuteurs. Ça ne sert à rien d'insulter les ministres, quand justement, cette fois-ci, ils l'ont fait dans une démarche méthodologique qui est quand même positive. Ce qui est clair, ça c'est off aussi, c'est on est dans le climat de tension ou de crainte par rapport au sujet. On a des coups de fil ici, hein, des cabinets, des formations politiques. On leur tient à tous le même discours. C'est votre problème.
Tensions et problèmes, voilà le quotidien de nos ministres.
Ils sont quand même payés pour ça.
Une maxime veut qu'à raconter ces mots, souvent, on les soulage.
Parlons-en, justement.
Dans le souci de compléter au mieux notre enquête, nous sommes entrés en contact avec les ministres De Waal et Van der Zeun, les deux signataires du présent arrêté.
Pourquoi les ministres l'ont-ils ramené sur la table? La nécessité fait-elle loi? Leur réponse est éloquente. En effet, aucun d'entre eux n'a voulu nous en parler.
Au cabinet Van der Zeun, on était plus occupé à préparer le voyage en Turquie qu'à défendre cette BNG. Quant au cabinet De Waal, on nous a gentiment expliqué qu'il n'avait rien à voir dans cette histoire. Pourtant, toujours selon l'article 44, les informations de police administrative et judiciaire sont respectivement traitées sous l'autorité des ministres de l'Intérieur et de la Justice.
Décidément réticents, nos dirigeants nous poussent à rechercher de nouveaux intervenants. Après l'organe de contrôle qui minimise le danger, les politiques adeptes du mutisme, ce sont les contestataires qui alimentent le plus le débat.
À la recherche d'un franc-tireur, nous rencontrons Manuel Lambert, conseiller juridique de la Ligue des droits de l'homme. À la surprise générale, il dédramatise aussi. Pour lui, rien de catastrophique. Mais une attention toute particulière doit être accordée à la manière de légiférer.
Donc c'est pas une opposition à la BNG, c'est une opposition à la manière dont a été rédigé l'arrêté royal. Les services de police nous ont expliqué qu'il y avait déjà un système de sécurité interne qui était existant, qui à première vue est performant. Et donc nous on veut que ce soit écrit noir sur blanc dans la loi pour qu'on sache dans quel jeu on joue.
Toutes ces justifications à apporter ne sont pas que générales, mais aussi ciblées.
Il y a les données en tant que telles, pour lesquelles il n'y a aucune justification dans le rapport au roi, comme par exemple les habitudes de consommation ou le comportement sexuel, et d'autres données qui doivent être strictement encadrées, notamment les opinions politiques et religieuses. Nous, on aurait aimé, par exemple, qu'on précise opinions politiques et religieuses contraires à la Convention européenne des droits de l'homme.
Par ailleurs, les données policières ne sont pas consultables par les particuliers.
Il y a des données qui ne pourront pas être accessibles aux citoyens, c'est normal. Prenons le terrorisme, le transvendicisme, etc. Il y a toute une série de données pour lesquelles ça ne se justifie pas. Le citoyen devrait pouvoir avoir un accès direct et demander « qu'est-ce que la police a sur moi ?» Et on peut faire apparaître toute une série de données, comme par exemple « s'est fait arrêter à 15 ans pour importation de cannabis, c'est pas grave. »
La Ligue des droits de l'homme reconnaît l'importance de la mission de police. Mais il est encore plus important d'encadrer légalement cette mission.
En l'absence de loi, les services de police créent leurs propres fichiers. Ils ont une mémoire aussi qu'ils doivent entretenir pour pouvoir mener à bien leur mission. Que ça existe, c'est absolument pas un problème, mais il faut que le cadre soit strict et donc cet arrêté royal, s'il est bien encadré, à mon avis, il peut être une bonne chose. La Convention européenne des droits de l'homme reconnaît le droit à la protection de la vie privée comme un droit fondamental, mais elle reconnaît aussi qu'il peut y avoir des exceptions pour des justifications qui sont raisonnables. Les missions de services de police, c'est quelque chose qui est évidemment indispensable, mais il faut qu'il y ait un cadre strict et transparent. Cependant, dans les termes actuels, il y a les germes d'une potentielle dérive, à savoir le fichage de l'orientation sexuelle n'a aucun sens s'il n'est pas associé à un autre critère, comme par exemple une infraction pénale. La pédophilie est une infraction pénale, l'atteinte aux mœurs est une infraction pénale. S'il y a maintenant un de ces critères qui est mis en corrélation avec le comportement sexuel, évidemment.
La Ligue des droits de l'homme veut s'assurer du respect des droits fondamentaux. Pour elle, nous ne sommes pas encore à l'aube du Big Brother.
Je pense pas qu'il y a une volonté consciente de Big Brotherisation et de contrôle. Par contre, ce que je pense qu'il y a, c'est qu'il y a une multiplication de Little Brother, on va dire. Je pense pas que nos dirigeants ne soient pas des démocrates, mais je pense qu'ils se rendent pas compte non plus du risque de dérive. On est dans une société de surveillance, mais inconsciemment, le réflexe sécuritaire est pas toujours bon, il doit être réfléchi.
Il n'y aurait donc pas de mauvaise volonté de la part des ministres. Ce n'est pas la peine d'exhorter les foules à incendier les rues. Mais il est nécessaire de les conscientiser.
C'est aussi un problème d'information, et en termes de violation de la vie privée, c'est toujours un sujet difficile, parce que les gens ont du mal à être sensibilisés dès lors que ça ne les touche pas directement. Il faut faire un travail pédagogique d'explication, et de dire que ça peut nous toucher tous à un moment ou l'autre, et que c'est pas des choses qui sont innocentes. Il y a aussi un droit à l'oubli, et permettre de donner aux gens aussi une seconde chance. Les services de police veulent avoir les outils pour mener à bien leur mission. Eux, ils sont sur le terrain, et ils font une demande pour avoir le plus d'informations possible. Nous, on est de l'autre côté du spectre, et nous, on est en demande de protection des droits fondamentaux. Et c'est le rôle de l'État de faire l'arbitrage et de trouver les équilibres entre ces deux choses.
Bref, Stéphane Verscure et Manuel Lambert s'accordent à dire qu'un système d'enregistrement de données personnelles à des fins policières est logique. Mais il faut veiller à ne pas archiver tout et n'importe quoi.
Finalement, n'oublions pas les principaux utilisateurs de cette banque de données. Une petite interview auprès de nos forces de police s'impose. Nous partons à l'assaut de l'État-major.
Signal !
Et nous revenons bredouille. Stéphane Verscure et Manuel Lambert nous avaient présenté la police fédérale comme très ouverte sur le sujet. Les portes se sont malgré tout poliment refermées.
Tous les porte-paroles, que ce soit de la police fédérale, de l'état-major ou du comité paix, ont tenu le même laïus. Tour à tour, ils ont invoqué le devoir de réserve et la confidentialité du sujet. Même Mark Vandendrich, directeur de la BNG, a insisté pour ne pas être interrogé.
Le silence est parfois plus parlant qu'un long discours.
Si la BNG n'est qu'un instrument policier, cet instrument se compose de nombreuses cordes sensibles.
Nous voilà à présent arrivés au terme final de cette projection. Qu'à cela tienne, sachez qu'il est maintenant possible sur certains appareils de revenir au début de la cassette. Regardez sur votre tableau de bord si vous possédez la touche RAW. Auquel cas, enfoncez un doigt au hasard et vous verrez que...